Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La grande séance, l'interview.
Alors Jérôme, vous êtes directeur de la distribution chez Gaumont, c'est un sacré rôle. Vous avez l'air décontracté, mais vous avez quand même une... C'était François Clair auparavant qu'on a connu, qui avait lancé Intouchable. Ouais. Je me souviens car je suivais ça jour après jour. Au début, on faisait 4 millions, 5 millions, 6 millions. Puis quand on est arrivé à 12 millions d'entrées, puis affinité, puisqu'on était arrivé à 19 millions 4, même François Clair était surpris lui-même.
Hein. Et était tous surpris.
Et tout le monde était surpris. On a un peu le trac comme les acteurs, comme les deux réals quand un film sort avec un enjeu parce qu'il est très attendu, Le Sens de la Fête.
Oui, alors on a forcément le trac et puis tous les films qu'on sort sont toujours de nos enfants, donc on a l'impression de se séparer d'un enfant à la sortie d'un film. C'est peut-être la métaphore est un peu forte, mais en tout cas voilà, c'est vrai que c'est un moment difficile. On n'est pas forcément on est plus ou moins stressé. Là, il y a quelque chose qui est très agréable avec Eric et Olivier. C'est qu'en fait, comme ils ont vécu quelque chose que personne ne peut vivre avec Intouchable, ils sont relativement détendus sur les résultats parce qu'ils savent a priori qu'on ne refera pas la même chose. Donc, ils ont vécu ça une fois, ils attendent plus ça. Alors que ce qu'on peut constater parfois avec d'autres réalisateurs, c'est que tout le monde rêve de faire Intouchable. Eux, ils rêvent plus de faire Intouchable.
Ça, c'est fait.
Et ça simplifie pas mal. Donc c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on est dans des objectifs qui sont très raisonnables. On sait qu'on a potentiellement un vrai succès entre les mains. Et en même temps, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés, d'obstacles pour l'emmener au public. Parce que c'est un film, justement ce que vous disiez tout à l'heure sur le film, comme quoi il y avait des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre de film. Bah, c'est justement une des difficultés, c'est que c'est Eric et Olivier mais sans Omar Sy. Jean-Pierre Bacri a sa notoriété et les gens l'adorent, mais c'est pas du tout la même et sur le même type de public qu'Omar, qui est beaucoup plus large. Et puis l'addition de cet attelage de casting est quand même assez particulier. On a des acteurs qui sont totalement qui ont un univers hyper rare et essai, d'autres qui sont sur des films plus grand public. On a Jean-Paul Rouve qui vient des Tuches, et on voit que sa notoriété est complètement différente. Quand on va dans le Nord, le film est reçu très différemment parce que c'est vrai qu'il a une base de fans très très forte là-bas. Et donc voilà, ce qui est très difficile quand on a un film qui a un message contradictoire, c'est d'additionner tous ces messages et qui se soustrait pas.
Marie.
Mais justement, ce que je trouve, c'est que ça fait un melting pot qui est extrêmement savoureux. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est une ribambelle de personnages, on en prend plein la vue, parce que tout le monde dégage une énergie différente.
Mais c'est marrant, parce que justement, dans ce film, c'est une force, alors que dans 99,9% des films, c'est un défaut, parce que le message n'est pas très clair pour l'emmener au public. Et là, on savait qu'on avait un obstacle qui était ce melting pot, et à la fois, c'est une force. Donc, ce qui est génial pour ce film, c'est que finalement, on pense qu'on arrive à additionner des publics très différents. Quoi.
Alors, comme c'est la première fois en 2 ans pour cette émission qu'on a un vrai distributeur comme ça au micro, je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent ce que c'est qu'un distributeur. On a des exploitants de salles, hein, ce sont ceux qui sont dans les salles. Il y a 2000 établissements de cinéma en France et 5800 écrans, hein, puisqu'il y a beaucoup de multiplex, il y a plus de 200 multiplex. Donc les exploitants, ce sont les salles. Le producteur, on sait, c'est celui qui est tout en haut, qui donne l'argent en gros, qui rassemble l'argent. Et le distributeur, il a des responsabilités parce que expliquez-nous, Jérôme.
C'est plutôt le distributeur qui donne l'argent d'ailleurs.
Oui, d'accord. C'est exact.
Qui prend les risques. En fait, le distributeur, c'est celui qui va faire le lien entre le film et le public. Donc, entre le film et la salle. Donc, la salle est tenue par un exploitant. Effectivement, le film est fabriqué par un producteur. Nous, Gaumont, on est un cas particulier puisqu'on est à la fois producteur et distributeur. On n'est plus exploitant puisqu'on a vendu nos salles de cinéma, même s'il y a encore des salles qui s'appellent Gaumont. Mais donc voilà, donc, moi mon métier c'est de faire le lien entre le film et le public, et donc d'essayer de déterminer quel public pour quel film, à qui donc on va devoir parler, qu'est-ce qu'on va essayer de devoir leur dire pour les convaincre d'aller voir le film, et idéalement de pas trop mentir pour qu'en plus quand ils s'en sortent pas trop mécontents. Donc,
et choisir, par exemple, le nombre de salles, ça c'est très important.
Choisir le nombre de salles. Alors, le nombre de salles se décide quand même avec l'exploitation. C'est-à-dire que, par exemple, sur Le Sens de la Fête, on n'a pas tout à fait choisi le nombre de salles. C'est qu'on a montré le film à Cannes à un parterre d'exploitants extrêmement enthousiastes, et ça a été la première étape de notre chemin. Et ils se sont tous vraiment emballés, et donc ils nous ont tous demandé le film. Et à un moment, on peut retenir la demande, mais on ne peut pas retenir trop. Donc là, le film est sorti sur, alors on parle en copie, on parle en écran, enfin fut un temps où le numérique n'existait pas et on avait des copies 35 qui circulaient de ville en ville. Donc il y a ce qu'on appelle des copies partagées, c'est-à-dire que parfois trois cinémas se partagent une copie et donc ne font pas un plein programme, elles font quelques séances, donc à trois salles font une copie, et là en l'occurrence donc on a 600 salles, 550 copies, à peu près 557 copies.
Ce qui est gros.
C'est très gros.
Intouchable avait commencé à moins.
À 508.
C'est ça. Et après, ça peut, on le sait, s'il y a une demande, ça peut augmenter.
Ouais. Et puis, parfois, il y a des films où on planifie l'augmentation. Par exemple, on a sorti Patient cette année. Patient, c'est un film dont on savait qu'il ne fallait pas trop l'exposer au départ. Parce qu'on savait qu'il y avait une barrière à l'entrée et que les gens qui viendraient voir ce film n'iraient peut-être pas tout de suite. Et donc, on s'est dit, si on sort le film à son potentiel, c'est-à-dire si on sort, je dis n'importe quoi, 350 copies, on va avoir des résultats médiocres salle par salle.
En moyenne par copie.
En moyenne par copie. On risque de se faire arrêter avant que le bouche à oreille ait fait son effet. Et donc, on a essayé de retenir la sortie. On s'est bagarré avec pas mal de salles.
Qui voulaient le film.
Qui voulaient le film parce qu'ils ont vu ce que ce film provoquait au public. Des standing ovations incroyables. C'est vrai que le film est très émouvant et très drôle.
J'avais vu au Festival de Sarlat, moi.
Et voilà, à Sarlat, on avait eu le prix du public et le prix du public jeune. Et enfin, le prix des lycéens, c'était vraiment... À chaque fois qu'on est allé quelque part, on est allé au Festival Premier Plan, on a eu le prix du public. On avait à Angers, on avait une standing ovation de 2000 personnes. Enfin, c'est vraiment ce qui provoquait, c'était fou.
Mais il fallait rester raisonnable.
Et ça a été dur de convaincre les salles, de leur dire, bon voilà, écoutez, en première semaine, vous l'aurez pas. Mais normalement, ça va bien se passer. Et quand ça se passera bien, on augmentera la combinaison. Et sur Patient, on est sorti sur 270 ou 280 copies la première semaine. Et on était à plus de 550 semaines.
Voilà. À la fin. Il avait fait combien, Patient ?
1 260 000.
C'est
un très beau succès.
C'est assez extraordinaire. Alors, ce qu'on va raconter à nos auditeurs, c'est que c'est drôle parce qu'il y a une semaine, il y avait le congrès des exploitants. Et dans le congrès des exploitants, donc les exploitants de cinéma qui parlent machinerie, qui parlent lumière, qui parlent fauteuil, etc., il y a une journée, c'est la journée des distributeurs. Alors c'est une journée assez extraordinaire puisque les distributeurs, il y en avait 30 distributeurs, sont là pour, entre guillemets, faire l'article devant une salle de 2000 exploitants au grand casino CID de Deauville pour leur montrer leur programme des 6, 8, 10 mois à venir, donc un petit programme. Donc Gaumont arrive, Jérôme il va sur scène, il présente un peu le line-up comme on dit, et là on a 10 bandes annonces, mais souvent même des extraits, donc on a un vrai aperçu de ce qui va sortir, et pour le plus grand plaisir des cinéphiles, et moi je fais ça depuis une quinzaine d'années, on se voit genre 250 ou 300 bandes annonces dans la journée, et on a vraiment un aperçu de 150 ou 300 films, on l'a dans la tête, quoi. C'est-à-dire, il y a l'applaudimètre. Alors, il y a des films qui sont très applaudis, d'autres, c'est le silence, parce que la bande-annonce n'est peut-être pas très convaincante. On a eu le droit à des premières images d'une jolie petite famille, etc. Donc, c'est toujours passionnant. Vous la vivez comment, vous, cette journée?
On la vit bien. Et d'abord, il y a un partenariat avec Doliprane, je crois, sur. C'est vrai qu'on a la tête farcie à la fin de la journée. Moi, je la vis un peu différemment. Je l'ai vécu en étant distributeur qui monte pas sur scène, et je la vis en étant distributeur qui monte sur scène, c'est un petit peu différent.
On a le trac quand on monte sur scène parce qu'on a tout, on a beaucoup de gens devant soi.
Ouais, il y a tous les exploitants, il y a aussi une bonne partie du métier maintenant, les producteurs viennent, les chaînes de télé viennent, et donc c'est vrai que on parle à toute la profession. Moi, j'ai pas particulièrement le trac, mais en tout cas, c'est un moment important où il faut pas qu'on se loupe. Et par conséquent, j'essaie de faire un peu attention. Puis quand je me réserve des plages de repos dans la journée. Mais parce qu'en l'occurrence, cette année, on passait en dernier de la journée. On était le 30e. Et c'était un enjeu un peu particulier. L'année dernière, on avait commencé deuxième de la journée. Donc à 9h30 du matin. Et là, c'était le soir. Et on l'aborde. C'est une journée très importante et à la fois. La réalité, c'est qu'il y a très peu de bandes annonces qui sortent du lot à la fin de la journée. Alors, les exploitants sont quand même là pour les
noter. C'est difficile de s'en souvenir, en fait. Ouais.
Donc, c'est très difficile de s'en souvenir. Et l'objet, moi, je nous donne deux règles dans la construction de notre programme. C'est que soit il faut qu'on arrive à avoir un contenu dont les gens se souviendront pour le film, soit il faut que les gens, à la fin de la journée, se disent « Ah, le line-up Gaumont, c'était bien. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dedans, je ne me rappelle plus. » Mais ils avaient un beau line-up. Et chaque contenu doit répondre à l'un de ces deux objectifs.
Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai dû prendre mon train, puisqu'on était à Deauville, donc je n'ai pas pu rester, contrairement à tout ce qu'on me disait, pour le line-up Gaumont.
Ah,
je suis
dommage.
Parti avant, c'est dommage. Mais, et justement, on va en parler. Donc, il y a le sens de la fête.
Alors, ce qu'on a fait, voilà, mais en l'occurrence, vous l'avez vécu parce que ça fait 15 ans, ouais, que vous le faites. Avant, à l'époque pré-internet, on découvrait les bandes annonces au congrès d'exploitants.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est vrai que les Américains ont plus de mal à avoir des contenus exclusifs, puisqu'il faut négocier avec les studios qui ont du mal à lâcher des contenus exclusifs. Et donc, il y a peu de contenus exclusifs dans la journée. Et c'est vrai que nous, la règle qu'on s'est donnée, c'est cette année, on va montrer que des contenus qui ne sont pas sur Internet et que les gens n'ont pas vu. Donc, comme le sens de la fête sortait quelques jours plus tard, on ne l'a pas montré.
Au revoir là-haut.
On n'a pas non plus montré Au revoir là-haut. Puisque
qui sort le 25 octobre.
Voilà, 4 semaines après le congrès, donc on s'est dit que ça valait
alors
pas
ça,
la peine.
Alors ça, c'est un film important, on en dit deux mots.
C'est un film très
Albert
important.
Albert Dupontel à la réalisation.
Albert Dupontel à la réalisation, un livre de Pierre Lemaître qui avait eu le Goncourt en 2013 ou 2012.
2013.
Et voilà, c'est
avec un super casting.
Un super casting. Laurent Lafitte, Mélissa Restrup, Nahuel Pérez-Biscaillard, qui est la révélation de 120 battements par minute. Émilie Dequesne, Mélanie Thierry. Et puis les habituels de Dupontel, Michel Vuermoz, André Marcon. Voilà, il a toute sa bande qui vient faire des apparitions. Honnêtement, le film le livre était très difficile à adapter.
Ouais.
C'est le maître qui a choisi Dupontel. Moi, j'ai un copain producteur qui m'avait dit un jour, ah, j'ai lu ce livre génial. J'ai appelé pour demander les droits. On m'a dit que j'étais le 48e à appeler.
Ah, d'accord.
Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans ce livre. Et c'est pas Dupontel qui a choisi le livre. Il l'a lu.
C'est,
il a trouvé
Pierre
ça formidable.
C'est Pierre Lemaître, l'écrivain, qui a choisi Dupontel. Voulu Dupontel.
Ils avaient le même agent et le maître a demandé à rencontrer Dupontel. Ils se sont vus. Et il lui a dit, est-ce que tu as lu mon livre ? Dupontel lui répond oui. Et lui, il y a vu un brûlot, une dénonciation des grands bourgeois profiteurs. Il a vu tout l'angle des classes sociales.
Il faut dire pour ceux qui nous écoutent que le pitch, en fait, c'est la guerre de 14-18. C'est deux gueules cassées. Juste après, deux types qui s'en sortent, dont un qui est une gueule cassée, qui est joué par Nahuel. Et l'autre est joué par Dupontel. Et ils vont, on va pas en dire plus.
Mais c'est une arnaque, quoi. Ils vont faire une arnaque.
Ils vont monter une arnaque parce qu'ils sont floués, quoi. Ils ont été floués par la guerre, etc.
Donc
il y avait une reconstitution. Il y a un sacré budget, non ?
Il y a un beau budget. Ouais. Alors, les effets spéciaux aujourd'hui permettent de faire beaucoup de choses très intéressantes. Par exemple, la scène d'ouverture que vous avez vue, dont on parlait hors antenne tout à l'heure, c'est une scène qui s'est tournée sous la pluie. Ouais. Et ça ne se voit absolument pas dans le film. Donc c'est assez marrant, ils ont effacé complètement la pluie.
C'est une scène, c'est les tranchées de 14-18 avec un chien. Ouais,
c'est magnifique. Et donc voilà, donc ça c'est un gros budget, puis c'est un gros enjeu. Et c'est vrai que on a montré le film. Albert fait une tournée présidentielle. Il en est à 85 projections, 90 projections en province. Il a commencé au mois de juin. Et les gens adorent le film. Donc c'est vrai qu'on est très impatients qu'il arrive sur les écrans.
Il y aura Marilyn, que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu à Angoulême, le deuxième film de Guillaume Gallienne.
Absolument, après Les Garçons et Guillaume.
Avant qu'il s'envole pour les États-Unis, parce qu'il a décidé d'aller.
Oui, il va aller à Berkeley ou à.
Voilà, faire une année de cours. Ouais. Il nous quitte. Il y a Belle et Sébastien 3. C'est une belle franchise.
C'est le dernier chapitre de Belle et Sébastien.
Ça veut dire que ça, c'est fini ?
C'est fini.
Après, c'est dommage.
Après, il y en a plus.
C'était toute mon enfance, ça.
Alors, on fera peut-être d'autres choses, mais ça sera
et
pas
là,
des films.
C'est Clovis Cornillac qui était à la réalisation.
Absolument. Absolument. Ouais. Il s'est complètement emparé du sujet. Il a voulu, en fait, Les 101 Dalmatiens. Il y a des petits chiots qui se font enlever par un type très méchant qui le joue. Ils vont essayer de sauver les chiots. Sébastien va essayer de sauver les chiots de Belle.
Et puis, alors, le gros morceau, je sais que le tournage a commencé il y a pile 8 jours, L'Empereur de Paris, alias Vidocq, avec Vincent Cassel dans le rôle titre, Fabrice Luchini qui joue Fouché, je crois.
Absolument.
Olga Kurylenko, Denis Ménochet, je crois qu'il y a Patrick Chenet, voilà.
Oui, absolument.
Et ça, ça sort.
James Thierry aussi.
James Thierry aussi. Et le film sort fin 2018.
Il sort le 12 décembre 2018.
Et on ça, c'est un gros budget.
C'est un gros budget, c'est un pari, parce que de faire des films en costume.
Aujourd'hui, c'est.
Là, il y a une vraie reconstitution. Ouais. Et j'ai hâte d'aller sur le tournage, parce que je sais qu'ils sont allés, ils ont trouvé toute une base désaffectée, une base militaire désaffectée dans le nord de Paris. Et ils ont reconstitué vraiment un bout de ville quoi, de l'époque, et avec les pavés d'origine. Voilà, donc ils se sont vraiment cassés la tête. Je suis allé sur la fabrication des costumes, et on est vraiment dans une usine de costumes du 19e siècle, donc c'est du 18e siècle, donc c'est vraiment dingue. Et voilà, on a hâte de le voir, mais enfin, c'est un film d'action. En costume, avec le duo de Mesrine. Enfin, voilà,
c'est un projet. Oui, on n'a pas dit que c'est Jean-François Richet et Vincent Cassel, le duo de Mesrine.
Très ambitieux.
Et on n'a pas dit que, parce que nous, on connaissait, je ne sais pas si la jeune génération connaît Vidocq, ancien bagnard devenu chef de la police.
C'est ça.
Et il y avait eu un grand feuilleton à la télévision, je m'en souviens.
Absolument, avec Claude Brasseur.
Claude Brasseur, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, je me souviens très bien. Donc Vidocq, pour nous, c'est un mythe.
Oui, et puis c'est le personnage qui a inspiré Jean Valjean. Enfin, voilà,
oui, absolument.
Il y a vraiment, c'est un personnage très important de l'histoire de France. Et vous avez sauté Santa et compagnie.
Qui
est le retour d'Alain Chabat.
Le retour d'Alain Chabat. Ouais,
et qui nous a permis de faire sensation au Congrès, parce que pour revenir sur cette journée, on a fini donc l'autre jour, tout dernier distributeur, on est passé à 20h15, donc avec des gens qui étaient dans la salle depuis 9h du matin, qui étaient complètement cuits. Et en fait, on est ressorti complètement du lot, notamment grâce à la bande-annonce. Alors, c'était pas une bande-annonce, c'était ce qu'on appelle un promo reel, c'était un format de 4 minutes. Qui montrait les premières images du film d'Alain Chabat, et qui à l'applaudimètre a tout explosé. Ouais,
incroyable. J'étais pas là. Hein,
voilà. Et donc c'est vrai que cette fameuse phrase qu'on se dit à la fin du congrès, quand on sort de là en disant bon bah t'as retenu quoi aujourd'hui, personne n'a pas retenu Santa. Donc c'était formidable.
C'est quoi Santa?
C'est Alain Chabat donc qui joue le rôle du Père Noël, qui est un Père Noël vert, puisque le personnage original était le Père Noël était vert.
C'est Nicolas.
Voilà, c'est Santa Claus. Avant que Coca-Cola le transforme en rouge, ce qui est vrai. Et donc il est en train de préparer Noël, tout va bien. Il a une dizaine de jours de Noël et ses lutins tombent malades tous d'un coup. En fait, il y en a un qui tombe malade et comme un banc de poissons, ils sont tous contaminés. Et donc il doit venir sur Terre entre guillemets parce qu'il vit au pôle Nord. Pour trouver 92 000 tubes de vitamine C pour sauver ses lutins. et donc il arrive, sauf qu'il a absolument aucun, il connaît pas le concept de l'argent, il a jamais vu des gens autrement qu'endormis, donc il est dans un concept où il dit ah non moi les gens je sais pas trop comment ça va se passer avec eux et tout, je sais pas si je vais y aller, et Wanda Claus qui est sa femme, qui est jouée par Audrey Tautou, lui dit écoute t'as pas le choix, faut que tu te bouges là, il reste 10 jours avant Noël, sans les lutins on n'y arrivera pas. Et donc il débarque à Paris. Et il va rencontrer tout plein de gens. Il va aller dans une pharmacie, il va demander 92 000 de vitamine C, on va un peu lui rire au nez. Et voilà, donc ça va être un peu ce concept anglais de fish out of the water, de poisson hors de l'eau. Il va être perdu dans ce monde qu'il connaît pas, et il va devoir se débrouiller pour sauver ses lutins. Et c'est, il y a tout le ton, tout l'humour Chabat. D'Alain Chabat qu'on retrouve.
Qu'on connaît.
Et c'est pour ça qu'on a eu un si fort applaudimètre au congrès. C'est que.
Et il sort quand?
Il sort le 6 décembre 2017.
Ah, d'accord.
Ouais, donc ça arrive.
6 décembre 2017. Donc
et on va sortir une bande-annonce pour la Toussaint. Donc ça arrive.
Parfait. Qui est au téléphone?
Eh bien, c'est Olivier.
Salut Olivier.
Qui est au téléphone dans cette. Folle journée.
Ouais, c'est ça. Il y a Jérôme qui est avec nous dans cette grande séance qui vous écoute. Je laisse vous dire bonjour.
Bonjour.
Ça va, Jérôme?
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, comme dirait un personnage, j'aime bien te parler, Jérôme.
Je crois que tu ne peux pas dire ça.
c'est vrai.
Alors, je voulais te dire en direct que les 16 heures sont bons. Hein.
Ah, les 16 heures sont bons. Ah, ça me détend. Ça me détend un peu. Et là, je fonce au pâté Levallois pour Sowet pour lancer une projection.
Alors Olivier Nakache, alors c'est une question classique, mais quand même, je sais que vous n'êtes jamais langue de bois. Qu'est-ce que vous avez dans la tête là? Tout se bouscule aujourd'hui?
Oui, tout se bouscule. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une sensation de quelque chose qui se termine, parce que ça fait depuis mi-mai qu'on promène le film comme ça dans toute la France, et pourtant c'est aujourd'hui que ça commence.
Ah oui.
La vie du film commence, et aujourd'hui le film il est plus à nous, on le donne aux spectateurs. Donc c'est une sensation bizarre, on est tendu, on a peur, on est heureux, impatient, soulagé. Donc c'est un mélange de plein de trucs qui se bousculent, comme vous le dites très justement, Bruno.
Alors comment ça se passe quand vous lancez le film dans les salles là? Vous êtes face à un public que vous ne connaissez pas. Vous allez le faire tout à l'heure à Levallois. Hein. Comment ça se passe?
Eh ben, on déboule dans les salles, soit au début, soit à la fin, et on fait un petit coucou aux gens. On n'arrive pas à rester chez nous. On n'arrive pas à rester en place. Donc on a besoin d'aller voir les gens, d'aller voir les salles, pour leur dire qu'on est très heureux de partager ce moment avec eux, parce que ce film, on l'a fait vraiment pour le partage. On l'a vraiment fait dans ce but-là, pour que les gens rient ensemble dans la même salle.
Alors c'est la fin d'une, vous le disiez, il doit y avoir un petit pincement au cœur quand même. C'est la fin d'une longue aventure qui a commencé quand en fait?
Ah, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a réfléchi après Samba avec Eric au futur, à ce qu'on avait envie de faire, et on avait envie de se lâcher. On avait envie d'un film avec beaucoup de gens. On avait fait Intouchable avec 2 personnages, Samba aussi avec peu de personnages. On avait envie de revenir à une ADN plus proche de Nos Jours Heureux et Tellement Proche, avec beaucoup d'acteurs. Et on avait eu une envie de Jean-Pierre Bacri, et on s'est lancé là-dedans en se mettant des contraintes, une unité de lieu, une unité de temps. Et on s'est dit, on va essayer d'écrire une comédie et tenir le rythme de la comédie tout au long du film.
Alors c'est vrai que vous en parlez, pourtant ça se sent pas quand on voit le film. C'est vrai qu'il y a unité de lieu, unité de temps, puisque ça se passe en quelques heures finalement, le jour d'un mariage.
Oui, tout à fait. On va suivre une équipe au travail qui travaille dans les cuisines et dans les coulisses d'un mariage. Et on les suit presque heure par heure. On les prend à 11h du matin et on les lâche à 6h du matin le lendemain. Et c'était le défi qu'on s'est fixé. Alors c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de théâtral, puisqu'on bouge beaucoup, on est tout le temps en action et on passe d'un décor à l'autre sans arrêt. Et on a voulu vraiment garder un certain tempo.
Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce sens de la fête, de ces coulisses de mariage? Tout à l'heure dans l'émission, vous ne serez plus là au téléphone, mais on va faire un quiz sur tous les films de mariage et sur des extraits pour essayer de reconnaître comme ça à l'aveugle. Qu'est-ce qui vous a ça vous fascine les mariages, cette ambiance particulière?
C'est pas vraiment le mariage. On cherchait un contexte. C'était surtout une équipe au travail, une équipe avec des gens qui font des petits boulots comme ça, des extras. On avait envie de ça. Des films de mariage, il y en a eu pléthore, des plus bons et des moins bons. Mais c'est vrai que c'est un bon contexte parce que c'est déjà très très cinématographique. Les gens sont bien habillés. Il y a des codes, il y a un protocole, il y a une robe blanche, il y a des smokings, il y a toute une sorte de passage obligé. Et nous, ça nous amusait de contourner ces passages obligés. Pour montrer ceux qui sont derrière, les petites mains qui travaillent pour faire que ce jour soit le plus beau pour les mariés.
Alors, moi je sais comment vous travaillez, parce que j'avais longuement interviewé pour une émission sur Europe 1 votre comparse, compère, ami, frère, Éric Toledano. Il faut, tout le monde admire l'écriture du film. Vous travaillez l'un en face de l'autre, je crois, si vous avez gardé la même méthode. Et il faut que chacun épate l'autre, en fait, hein, parce qu'il faut rire, quoi.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que on est en face l'un l'autre, on établit un plan, on est des foot post-it, on fait un plan de 10 scènes par exemple. Après, on se les partage, on les écrit, on se les fait lire, et quand l'un lit, l'autre l'observe, et si ça se marre, c'est déjà bon signe. On est chacun l'un le public de l'autre, c'est ça qui est bon. Et surtout sur le tournage, c'est la même chose. Moi, mon but quand j'arrive dans une scène, c'est aller lui réserver des petites surprises, et lui aussi. C'est comme ça qu'on arrive à s'auto-stimuler.
Mais comment vous changez et vous réservez? Comment vous faites une petite surprise? Je sais que, par exemple, sur Intouchable, vous jouiez, entre guillemets, le jeu avec notre ami Omar Sy. Vous lui envoyez la balle, il la renvoyait et ça marchait. Mais comment on peut, parce que là, c'est un peu les coulisses, justement, non pas du mariage, mais du film, comment on peut surprendre l'autre en changeant quelque chose dans la scène?
Déjà, on a un principe, c'est qu'on tourne ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on s'astreint. Vu qu'on a réfléchi pendant 2 ans aux scènes, donc on tourne ce qu'il y a écrit, et ensuite, par exemple, je vais voir un acteur, je lui dis quelque chose dans l'oreille, et voilà, ça se passe comme ça. Et Eric aussi fait la même chose. Donc on essaye de, comme la condition du direct, si j'ose dire, nous surstimule, il y a toujours des idées qui arrivent, au dernier moment.
Et je sais qu'Éric Toledano me racontait, ça m'avait marqué, que il disait que si l'équipe technique ne rit pas sur le plateau, on sent que la coiffeuse ou la maquilleuse s'ennuie un peu, c'est que c'est pas bon, hein. En fait, c'est ça.
C'est vrai que ce sont les premiers spectateurs. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de soucis sur ce film, parce qu'on a décidé de faire ce film entièrement caméra à l'épaule.
Ouais.
Et l'opérateur qui s'appelle David Chizalet, c'est un jeune opérateur qui a fait Mustang. Eh ben, et de temps en temps, il ne pouvait pas ne pas rire. Donc, il y a le plan qui tremble. Donc, c'était assez savoureux. On se disait, bon, c'est cool, on est content, ça marche, mais on n'a pas le plan parce que ça bouge. Donc, on n'arrêtait pas de lui dire, David, ne ris pas, s'il te plaît, ne ris pas. Et c'est vrai que les premiers spectateurs, les premiers techniciens, vous savez, quand on monte le film au monteur son, quand on monte le film aux gens qui travaillent, on est là avec eux et on les observe. Et c'est les premiers indices, on va dire.
Absolument. Alors, comment, c'est ma dernière question, parce que je sais que vous avez l'aide du travail, entre guillemets, du travail heureux, mais du travail.
Heureux,
ma dernière question, c'est justement heureux. Comment on fait pour garder la tête froide après avoir voyagé dans le monde entier pour intouchable, avoir été dans des dizaines de pays, qu'on est un peu attendu au tournant, que maintenant Eric Nakache et Toledano, voilà, ils sont attendus, et l'essence de la fête était très attendue. Comment vous faites? Comment vous gérez ça, ce stress?
Écoutez,
ou cette célébrité?
En fait, ce qui se passe, c'est déjà une force d'être deux. Moi, par exemple, avec Eric Nakache, on est deux, donc on est très très soudés, et de vivre les choses à deux, ça permet de diviser la pression, de diviser l'ego, de diviser tout, quoi.
C'est vrai.
C'est vachement bien.
Ouais.
C'est vachement bien. Si le film marche, c'est pas de sa faute, c'est ni de la mienne. Si le film est un échec, c'est que de sa faute, par exemple. Donc, si vous voulez, en plus, je connais bien Eric Nakache, c'est pour ça que je parle de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que, voilà, dans le moment où vous me prenez à l'instant T, c'est vrai que je suis très heureux. On a vécu cette journée un peu folle aux côtés de Jérôme Hilal, qui est le garant des chiffres et le garant de cette sortie.
Ouais.
Et donc, c'est vrai qu'on travaille dessus depuis longtemps. Donc, c'est un mélange d'euphorie, un mélange de doute encore, parce que évidemment rien n'est gagné, mais en tout cas on est tellement heureux et fiers du film que pour nous on a déjà un peu gagné.
Et alors vous allez vous reposer un peu ou non?
Oui, Jérôme Hidal a une grande maison à Saint-Rémy-de-Provence et on va s'y aller. D'ailleurs, je dis à
la demande est faite
de nous rejoindre. Non, oui, on va se reposer, mais on a très très envie de repartir dans l'écriture.
Ah, c'est donc, ça. J'allais vous dire, ça commence à travailler. Là, il y a des idées qui viennent.
Ouais, ça commence à venir, il y a des idées qui viennent, et puis dès demain matin, c'est la page blanche, si j'ose dire.
Ouais.
Ça y est, il faut qu'on redémarre, et donc voilà, on va aller au spa demain après-midi, et ensuite on va se remettre au travail très vite, et on va accompagner le film à l'étranger dans plusieurs pays.
Ah ouais, ça c'est agréable.
Ça c'est génial.
C'est génial
parce que la pression n'est pas la même, parce que le film est déjà sorti en France, et alors en plus, si le film marche, on est complètement dépressurisé. Mais nous, ça nous éclate de voir une salle de 300 ou 500 personnes qui est très loin de nous a priori, mais rire aux mêmes vannes qu'on fait en France. Donc c'est ça qui nous amuse beaucoup. On était à Toronto et à Saint-Sébastien et ça s'est admirablement passé. Donc on attend ça avec impatience. On va à Moscou la semaine prochaine.
Ah.
On va voir si les Russes ont de l'humour.
Merci beaucoup.
La réputation des Russes est faite sur l'humour, d'ailleurs.
Oui, absolument. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir consacré tout ce temps-là dans cette journée particulière. Merci encore
avec
mille
plaisir.
Fois. À bientôt.
Et... À tout à l'heure, Jérôme.
À tout à l'heure, Olivier. À tout à l'heure, Eric Nakache.
Ouais, je vous embrasse.
Voilà, on vous embrasse aussi. Alors voilà, vous l'avez bien écouté là, Jérôme. Vous l'avez senti comment? Il a l'air en forme.
Non, mais ils sont bien. Les deux sont très contents parce que c'est vrai que c'est une journée donc qui est tendue. J'en parlais avec eux tout à l'heure. Il y a Claude Duty qui avait fait à l'époque un court métrage qui s'appelait Paris 14 heures.
Je me souviens de Claude Duty. Ouais.
Sur le stress que peut générer le 14 heures Paris. Alors ça a un petit peu changé parce que maintenant les chiffres. Les films s'étalent un peu plus
le matin, les halles.
Voilà, et puis même notamment les gens font un peu moins confiance au marketing, donc ils se jettent un petit peu moins dans les salles tout de suite,
ouais.
Et ils attendent un petit peu de voir ce que leurs amis en pensent, ce que la presse en dit, etc. Et donc les chiffres sont plus intéressants sur 5 jours que sur une journée ou sur 3 séances.
Alors à propos de chiffres, on peut se lancer là, Paris Périph, la première séance 6000.
Ouais, c'est très très bien.
6000, ça veut dire qu'il y a 5 séances dans la journée.
Ouais, alors ça dépend parce que ça dépend de la durée du film. Et puis nous, on a comme le film faisait, c'est des petites subtilités, mais dont le public peut pas se rendre compte. Mais par exemple, le film fait un peu plus d'une heure cinquante.
Ouais.
Et quand un film fait un peu plus d'une heure cinquante, la séance qui commence à un horaire normal, la séance de 20h se retrouve généralement vers 19h10, 19h15, et c'est un très mauvais horaire.
Aïe.
Et donc, ce qu'on a fait, on a négocié avec les exploitants pour avoir des séances supplémentaires, autour de 20h. Donc on va avoir des 19h45. Et des séances à 18h50, 19h45, 21h, On aura une séance intermédiaire.
Comme ça, à la louche, au doigt mouillé, comme on dit, je sais qu'on aura les chiffres France que demain après-midi, nous. Ouais. Le film pourrait être dans quelle fourchette?
Nous, notre objectif, c'est de faire plus de 100 000 France premier jour, mais avec les avant-premières incluses. Et on a fait 40 000 entrées en avant-première.
D'accord, 40 000 en avant-première, donc voilà, ça fait 60 000.
Donc voilà, on voudrait faire au moins 60 ce soir, et on pense qu'on devrait y arriver. Donc voilà, plus de 100 000, plus de 100 000, c'est l'objectif. Après, au-dessus,
Serait pas mal. Ça ferait du bien aux entrées et à la santé du cinéma français, du
qui
cinéma
compte
en
sur
général.
Nous, tout le monde
qui
nous compte, le dit.
C'est ce que
j'ai jamais reçu autant de messages.
Mais c'est, on le sent, parce que le sens de la fête, depuis Angoulême, depuis même avant, depuis l'écriture, etc., et surtout depuis Angoulême où le film avait été très bien reçu, on sent qu'il y a une attente, et c'est comme si l'ambiance était un peu morose au niveau du cinéma. Voilà.
Et puis, à part Valérian, il n'y a pas un film français qui a fait 1 million d'entrées depuis À bras ouverts.
Absolument. Donc on attend ça avec impatience.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And
it's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.